pour ceux qui cherchent Dieu en toute sincérité et qui essaient de le trouver en raisonnant avec leur intelligence d'homme, il y a un grand obstacle qui leur est difficile à franchir, qui constitue une sorte de pierre d'achoppement. C'est le problème du mal et de la souffrance. Comment renverser un tel obstacle? Comment consoler ceux qui sont brisés par la douleur, terrassés par la souffrance physique ou morale? Que dire à tous ceux qui osent accuser Dieu d'injustice ou qui mettent en doute jusqu'à son existence? Pourquoi tant de choses inutiles, tant d'êtres nuisibles dans le monde? Pourquoi les justes doivent-ils souffrir? Pourquoi sont-ils souvent les seuls à souffrir? Comment le péché, le mal et la souffrance ont-ils pu entrer dans le monde sous le gouvernement d'un Dieu infiniment bon et infiniment saint? Vous vous êtes sans doute déjà posé plus ou moins clairement toutes ces questions, et ce sont celles-là même que nous aborderons dans cette étude, sans prétendre y répondre d'une manière définitive ni même toujours satisfaisante. Pour répondre à ces questions, nous avons eu recours à la Bible et nous avons largement puisé dans diverses études, particulièrement l'étude de M. Jacques Leu sur le problème du mal et de la souffrance, un problème qu'il traite intelligemment et courageusement. C'est une lecture que je conseille vivement. Avant de nous avancer dans une recherche des causes du mal, il nous faut faire une importante précision de vocabulaire. En effet, il faut toujours savoir distinguer entre le mal que l'on subit, c'est-à-dire la souffrance, et le mal que l'on fait, c'est-à-dire le péché. La question se pose donc, ce mal, d'où vient-il? De nous-mêmes, des autres, ou vient-il de Dieu? D'emblée et objectivement, nous pouvons affirmer que la plupart des souffrances viennent des hommes. Ce que l'on reproche à Dieu, c'est le plus souvent les actions des hommes contre d'autres hommes et aussi contre Dieu. L'apôtre Paul avait mis en garde son disciple Timothée contre les œuvres mauvaises des hommes, dont il trace un tableau hallucinant. Sache que dans les derniers jours, dit-il, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Je reprends ici quelques exemples tirés de l'article de M. Jacques Leu. En 1912, le Titanic coule. C'est le plus beau bateau du temps. Il y a 1600 noyés. Le Titanic a heurté un iceberg, c'est-à-dire une montagne de glace qui flottait à la dérive sur la mer. Pourquoi ? Pour battre le record de vitesse de la traversée Europe-Amérique, le Titanic a emprunté une route inhabituelle, plus courte mais dangereuse à cause justement de ces îles flottantes de glace. Ambition, orgueil, notez que le nom même du bateau, Titanic, semblait montrer l'orgueil des hommes. Voyez ces jeunes qui se mettent à boire. Ils s'intoxiquent peu à peu. Leur médecin le leur dit à l'occasion, ils ne l'écoutent pas. À 40 ou 50 ans, leur organisme lâchera tout d'un coup. Leur foi hors d'usage, c'est la maladie grave, les remèdes, les ponctions, rien n'y fera. Et ils crieront, « Mais qu'ai-je bien pu faire, ô bon Dieu ?»« Adieu rien, mon pauvre vieux, mais en ton corps que tu as systématiquement empoisonné tous les jours. » Effroyable spectacle que ce petit enfant de 6 mois, aux yeux trop grands, au visage de vieillard. On ne devrait pas voir des choses pareilles. Mais à qui la faute s'ils sont sous-alimentés, ces petits? À la guerre? Oui, mais cette guerre est due à l'ambition des uns, à la lâcheté des autres, à notre égoïsme à tous. Il y a assez de lait, de blé, de café dans le monde. Ce n'est pas la fécondité de la terre qu'il faut accuser. L'apôtre Jacques avait déjà dénoncé la véritable origine du mal et de la souffrance lorsqu'il écrivait « D'où viennent les guerres, d'où viennent les batailles parmi vous? N'est-ce pas précisément de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et ne possédez pas, alors vous tuez, vous êtes jaloux et vous ne pouvez obtenir, alors vous bataillez et vous faites la guerre. » On peut en effet remarquer que si on enlevait des souffrances de l'humanité, toutes celles qui sont directement la faute des hommes, il en resterait certes, mais peu. Les hommes accusent Dieu pour éviter, de s'accuser eux-mêmes. Une autre question se pose pourtant qui paraît à prime abord très logique. Dieu ne pourrait-il pas empêcher le mal fait par les hommes? Ceci simplifierait en effet le problème considérablement, pour ne pas dire que cela l'éliminerait tout à fait. Mais comment Dieu pourrait-il empêcher le mal, si ce n'est par une intervention personnelle? Prenons un exemple. Il se met à grêler. Il faut que le champ du juste soit épargné. Mais si par hasard ce juste devient méchant, il va falloir que sa récolte pourrisse dans son grenier. Mais que diront alors tous les autres qui comptent sur cette récolte pour leur pain? Et on irait ainsi, voyez-vous, de miracle en miracle. On ne serait plus sûr de rien. La plupart des objections ou des révoltes humaines ne tiennent pas compte du fait que Dieu nous a créés libres. C'est un don précieux que la liberté. Des hommes ont donné leur vie pour que ceux qui restent puissent vivre libres, libres d'aimer ou de haïr, de faire le bien ou de faire souffrir, car être libre, c'est précisément pouvoir choisir. Dieu veut que nous nous rendions compte que la réussite et l'échec, le plaisir et la souffrance, la jouissance et la douleur, la liberté et le mal sont deux faces inséparables d'une même réalité, comme l'endroit et l'envers d'une même pièce de monnaie. Il ne faut pas dire « la souffrance existe, donc il n'y a pas de Dieu ». Il faut dire « Dieu existe ». Quelle réponse donne-t-il à la souffrance? Comme l'a dit Paul Claudel dans cette question, il reste certes des obscurités, mais il y a une chose au moins que nous ne pouvons pas dire à Dieu, « Tu ne sais pas ce que c'est ». Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance, il n'est même pas venu l'expliquer, mais il est venu la remplir de sa présence. Il sait ce que c'est que la solitude, que l'incompréhension des foules, la calomnie, la haine, il connaît la lâcheté des hommes, il sait même ce qu'est la trahison. Il suffit de lire une partie de l'évangile de Marc pour embrasser dans un seul paragraphe, à la fois bref et hallucinant, la somme des souffrances que la parole faite chair a dû subir. Si vous avez une Bible chez vous, lisez aujourd'hui même le 15e chapitre de l'évangile selon Marc, peut-être même avant de partir au travail ce matin. Vous verrez qu'on ne peut faire aucun reproche à quelqu'un qui donne sa vie aux autres par pur amour. À ce point, Jacques Leu nous propose de regarder le problème par l'autre bout, c'est-à-dire en écoutant ce que Dieu pourrait nous dire à nous, ses créatures. « Ô mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je attristé? Réponds-moi. Est-ce parce que je vous ai donné la terre entière et ses richesses, son blé, ses vignes, son charbon, son pétrole, ses atomes? Vous vous en accaparez d'abord au lieu de les distribuer, puis vous vous en servez pour la guerre et alors vous les gaspillez et les gâchez. Est-ce parce que je vous ai donné la vie et la force et vous vous en servez pour tuer cette vie, pour persécuter les faibles et les minorités? Est-ce parce que je vous ai donné la parole qui vous permet de communiquer avec les autres hommes et vous, vous l'utilisez pour mentir et cacher les pensées de votre cœur et pour blasphémer contre moi et pour maudire? Ô mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je attristé? Réponds-moi. » Parmi vous qui m'écoutez, je sais qu'il se trouve des personnes qui ont beaucoup souffert et qui souffrent sans doute encore. Je dois presque m'excuser auprès de vous de venir traiter un sujet aussi grave, comme si cette petite causerie devait une fois pour toutes résoudre tous les mystères de la souffrance. Telle n'est pas notre prétention. Je voudrais seulement rappeler à votre esprit et à votre cœur que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, celui auquel rien n'échappe, même pas la chute d'un moineau, est aussi le témoin de votre douleur. Si vous ne la comprenez pas, offrez-la lui avec vos larmes et vos soupirs. Il saura garder votre cœur de la révolte et du désespoir en vous montrant son attention pour vous dans l'épreuve que vous traversez. Car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, a déclaré l'apôtre Paul. Que ce soit un heureux événement ou une épreuve particulièrement lourde, comme la maladie ou la mort même. Nous avons parmi tant d'autres le témoignage de Suzanne Fouché, fondatrice de la Ligue pour l'adaptation du diminué physique du travail. Alors qu'à 17 ans, la coxalgie paralyse son jeune corps, elle se débat entre la révolte et l'incompréhension. Mais dans cette lutte, est sortie la grandeur car elle écrit dans son livre « Ma douleur, je l'ai prise en main comme un instrument de travail ». phrase admirable qui traduit bien l'intention de Dieu. Dans une certaine mesure, il y a des souffrances qui constituent une initiative divine sur l'homme pour le rappeler à la réalité, à la fragilité et à la vraie signification de la vie. Envisager sous cet aspect la souffrance est quelquefois une nécessité. Elle est le signe béni du châtiment d'un père qui aime son enfant légitime. L'écrivain anglais C.S. Lewis, qui fut longtemps athée, c'est-à-dire incroyant, prouve bien clairement l'aspect indispensable de l'épreuve dans la vie de l'homme. Il se décrit marchant joyeusement sur le chemin de la vie, insouciant, impie, satisfait de son état. Il forme des projets, il se réjouit à la perspective des vacances, d'un livre nouveau, d'une joyeuse partie entre amis, quand tout à coup il ressent comme un coup de poignard dans l'abdomen ou encore il apprend une terrible nouvelle. Pour commencer, il est effondré et tous ses petits bonheurs lui font l'effet de jouets brisés. Petit à petit, il comprend que tous ces rochers n'ont jamais été faits pour posséder son cœur, que son véritable bien est dans un autre monde et dans le Christ. Et peut-être grâce à cette souffrance, réussit-il pour un jour ou deux à devenir une créature totalement dépendante de Dieu, puisant sa force à la bonne source. Mais à l'instant même où la douleur est écartée, toute sa nature, d'un bond, se jette à nouveau sur ses jouets. Et il ajoute cette vérité que nous avons tous constatée. La terrible nécessité de la tribulation n'est donc que trop claire. Dieu ne m'a eu que pendant 48 heures. Et encore uniquement parce qu'il m'a retiré tout le reste. Sans doute avons-nous tous besoin de souffrir dans notre existence pour nous rapprocher de Dieu, mais quels que soient les déchirements de la souffrance, que le Seigneur nous aide à l'accepter et à l'orienter. Nous souffrons parce que l'épreuve nous a ôté quelque chose, la santé, la présence d'un être cher, le sourire d'un enfant. Elle nous a peut-être ôté des biens ou la tranquillité. Gardons-nous d'attribuer rien d'injuste à Dieu et sachons prier même en pleurant. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni.